actuelle soulève surtout deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'elle se traduit par l'appropriation croissante de toutes les ressources matérielles et immatérielles de la planète, à travers la libéralisation des échanges, notamment le mouvement de capitaux, à travers la déréglementation du rôle de l'État, à travers la privatisation de pans entiers de l'économie, y compris ces derniers temps, la privatisation permise par les droits de propriété intellectuelle qui permettent l'appropriation privée du vivant, des micro-organismes, des plantes, des semences, et même maintenant depuis quelques semaines, suite aux décisions prises en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'appropriation privée des gènes humains. Et donc on assiste également à travers le droit de propriété intellectuelle sur les logiciels à une appropriation du monde en tant que marchandise qui tombe sous le contrôle des intérêts privés, des sujets privés, de sorte que tout la vie humaine, vous, moi, notre corps, les plantes, la connaissance est devenue toute marchandise. Et cette appropriation par le privé, notamment le capital financier privé, représente le premier grand défi, le premier grand problème de la mondialisation actuelle, parce qu'on ne peut pas privatiser tout, on ne peut pas réduire tout à une marchandise. La vie humaine, la vie des plantes n'est pas une marchandise. Et surtout, le fait que on donne le pouvoir de appropriation dans la logique de la rentabilité du capital des propriétaires, rentabilité à court terme. Ce qui signifie, par exemple, alors que cette appropriation privée du monde signifie que la planète, l'environnement, malgré tous les discours qu'on fait à l'heure actuelle, la rhétorique du développement soutenable, durable, eh bien on constate qu'on assiste à la détérioration croissante de notre planète du point de vue environnemental. Tous les indicateurs, tous les rapports ne font que confirmer que malgré, ça fait depuis 1992 Rio de Janeiro, depuis 10 ans et depuis qu'on a inventé le mot développement durable, hein, en 1988, eh bien, et toutes les commissions qui existent, même en Belgique, il y a la commission sous le national de développement durable qui est présidée par le prince Philippe de Belgique. Bon, donc, on n'a fait que détériorer. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé la logique de la rentabilité à court terme s'approprier en termes de propriété du monde. Ça, c'est le premier problème. Alors, il est clair que comment résoudre ces premiers problèmes ? Le premier problème, c'est de dire et affirmer, du point de vue mondial et local, qu'il y a des choses, qu'il y a des ressources, qu'il y a des réalités humaines qui ne peuvent pas être privées et privatisées. L'eau est ne peut pas être privée. L'eau est la source de la vie. Donc on ne peut pas privatiser. Les gènes humains ne peuvent pas être objet d'une société comme Monsanto, Novartis, Aventis, Dupont, qui font ce qu'ils veulent de toutes ces réalités. Donc il y a un principe fondamental. Tout n'est pas privatisable. Et au contraire, il y a des biens et des services qui doivent être reconnus comme biens communs, et pas seulement biens communs pour la Belgique ou pour les pays développés, mais biens communs de l'humanité. Et donc l'eau, l'air, la terre, l'énergie, certaines énergies, l'énergie solaire, et du vent, certaines expressions du vivant, comme des organismes, micro-organismes, des bactéries, des virus, des cellules humaines, sont propriétés communes, c'était des biens communs. Et ça, c'est très très important parce que les gens, à la limite, acceptent qu'on dise l'eau en Belgique appartient aux Belges, mais n'acceptent pas qu'on dise que l'eau en Belgique appartient à l'humanité. Hein? Comme l'eau au Brésil, les Brésiliens ne sont pas prêts à dire que c'est l'eau appartient du monde. Et alors, ça, c'est une œuvre d'éducation culturelle, politique énorme qui nous attend pour passer de l'ère de la privatisation totalitaire et englobante à l'ère de la reconnaissance que la société mondiale, l'humanité, partage des biens en commun pour l'intérêt général de tous les êtres humains qui habitent la planète, et notamment quand on sera 8 milliards dans 20 ans. Alors ça, c'est le premier grand problème de la globalisation. Le deuxième grand problème de la mondialisation, c'est que on ne voit nulle part, suite également à cette privatisation de tout, on ne voit pas nulle part émerger des structures d'organisation politique démocratique du fait d'être ensemble. Et plus on parle de mondialisation de l'économie, mondialisation des échanges, mondialisation des flux, mondialisation en culture, mondialisation des modes de vie, moins on est en train d'organiser le politique sur le plan mondial. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en liaison du premier problème, on a privatisé le politique. C'est vrai qu'encore les États-nations, c'est vrai qu'encore les politiques sont influents, qui dépendent beaucoup dans chaque pays, que la présence de l'État financière est encore importante, etc. Mais on a enlevé à cette présence du politique l'esprit, parce que l'esprit a été donné à d'autres. Même s'il y a beaucoup de dépenses encore qui sont dans le budget national, qui appartient au public, mais les logiques de décision, ça appartient plus aux politiques. Et appartiennent aux privés, parce qu'on a confié le pouvoir de décision en matière d'allocation des ressources disponibles et en matière de redistribution de la richesse produite suite à l'allocation des ressources, on l'a donné aux privés. Et donc, le deuxième gros problème, c'est qu'on l'a donné au privé sans pour autant créer au plan mondial, où le privé global est organisé, les institutions, les règles, les formes de pouvoir politique démocratiquement organisées. Au contraire, on a donné à des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, qui est une forme d'organisation privée, à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, des pouvoirs qui ne sont pas énormes par rapport, au contraire, au pouvoir que possèdent les grandes conglomérats, les grands conglomérats financiers, industriels, privés. Et donc, le deuxième grand problème de la mondialisation actuelle, c'est l'organisation de la res publica, donc de la démocratie au plan politique mondial. Comment faire ? Alors, il est clair que pour pouvoir construire ce politique mondial, il faut avoir des luttes politiques mondiales. Il faut que nous inventions de nouvelles formes de démocratie représentative. Imaginez-vous un Parlement mondial, les gens n'y croient pas, comme il y a 70 ans, ils ne croyaient pas au Parlement européen, comme il y a 150 ans, ils ne croyaient pas au Parlement belge, quoi, non ? Alors vous imaginez ce qu'il faut faire pour arriver au Parlement mondial. Qui sera fait ? Qui sera fait ? Bon, ça, le problème, c'est de savoir combien ça prend et quelle est ça, la résistance conservatrice des gens, des institutions, etc. Alors, mais donc organiser le pouvoir politique mondial. Il faut commencer. Il ne faut pas immédiatement avoir le Parlement arriver à la fin, quoi. Il faut commencer par des petites choses ou grosses choses, mais sectorielles. C'est qu'on peut faire, quoi. Si on pouvait le faire immédiatement, pourquoi pas. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut organiser le politique par rapport au bien commun. Donc, il faut organiser des autorités mondiales, démocratiques, par rapport à ce que la société aura déclaré comme bien commun et comme service mondial. Si le service de la santé est considéré un service mondial commun, eh bien, il faut créer une autorité mondiale de la santé, c'est-à-dire transformer complètement l'Organisation mondiale de la santé, qui à l'heure actuelle n'a aucun pouvoir parce qu'elle est intergouvernementale et internationale, créer des structures qui permettent ça. Et moi, j'ai proposé ici, à Porto Alegre, et on travaillera dimanche et lundi là-dessus, plus en détail dans des workshops, que la première forme d'intelligence innovatrice sur le plan politique de la société qui s'est dit mondiale, c'est de créer une autorité politique mondiale de l'eau. C'est-à-dire l'eau comme bien commun patrimonial de l'humanité serait sous la responsabilité non pas d'une nouvelle hyper-bureaucratie minoussienne distante des gens, ça on n'a pas besoin de ça, mais d'une autorité mondiale qui pourrait être démocratique, dans le sens où pourrait représenter sous forme indirecte un parlement mondial de l'eau. Et il y a régulièrement des réunions chaque année qui sont sur l'eau, et où 5 000 personnes, 10 000 personnes, où ils discutent de l'eau, mais de manière technocratique, ils ne représentent pas. Alors pourquoi pas ne pas organiser tous les 3 ans une assemblée parlementaire mondiale de l'eau où on verrait quelle forme de représentation il faudra organiser. Donc nous sommes à l'ère d'inventer une nouvelle ingénierie du vivre ensemble politiquement et de comment on décide. Voilà les deux gros problèmes mondiaux et comment on peut commencer à y donner une réponse constructive et positive. C'est clair que ce n'est pas ici qu'on va définir et construire le monde. Mais ici, on est en train d'affirmer la prise de parole de milliers et de milliers de gens ici qui ne sont pas ici, mais des centaines et des centaines d'organisations qui, depuis 15, 20 ans, se battent pour la justice, pour les droits humains, pour une gestion de l'agriculture saine, pour une gestion de l'environnement durable, pour une ville où il fait beau vivre, pour la participation des citoyens à la gestion de la ville, pour une économie, une entreprise au service du welfare collectif, pour une technologie répondant. Porto Alegre signifie le premier moment, enfin après 15-20 ans, où tous ces gens se rencontrent, se disent bonjour parce qu'ils se rencontrent finalement, et ils changent des expériences sur ce qu'ils sont en train de construire aussi alternativement. Au fond, Porto Alegre représente une innovation fantastique dans le peuple de la résistance à la mondialisation actuelle, parce qu'elle coupe le cordon ombilical entre les événements, les grands rendez-vous des dominants et la résistance. Jusqu'à présent, nous avons suivi toujours les lièvres, quoi. Hein, les dominants se rencontrent et nous y allons pour protester. Et maintenant, ça suffit. On a fait notre boulot, et en effet, le boulot qu'on a fait, c'était en allant dans tous ces grands événements, en suivant donc l'ordre du jour du dominant, on a montré la non-crédibilité des discours et des politiques. Donc nous avons réussi, pendant 15 ans de protestation, d'aller dans toutes ces villes, à décrédibiliser les discours, la narration des dominants. Et on a donc rendu crédibles les discours alternatifs. Maintenant, il s'agit de ne plus suivre l'ordre du jour. Certes, il faut continuer à être présent, mais c'est plus l'important. Maintenant, l'important, c'est se réunir pour construire notre propre ordre du jour, pour proposer l'ordre du jour de tous ceux qui sont les victimes de cette mondialisation et de tous ceux qui ont envie, rêvent, espèrent pour un nouveau et monde différent de celui qu'on a. Et donc, alors la fonction de Porto Alegre, c'est commencer un processus. Ici, on commence un processus. Donc, on ne sait pas ce qui va être le parcours. On ne connaît pas ce qui va être l'aboutissement. On espère que l'aboutissement soit effectivement contribué à la création d'un autre monde différent qui soit possible. Mais ici, c'est le processus. Et on ne peut pas demander un processus de donner déjà les résultats. On verra le résultat quand le processus aura entamé sa phase historique. J'ai l'impression que Porto Alegre représente un moment d'un début peut-être d'une histoire. Je ne vais pas être pompeux, je ne vais pas être orgueilleux, je ne vais pas être baroque, quoi. Hein, mais je pense que c'est un événement historique ici qu'on est en train de vivre et qui pourra représenter une marche, une longue marche. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'on a gagné, quoi. Hein, et de loin, et que penser que puisqu'on a décrédibilisé le peuple de Davos, les gens des dominants, ils ont perdu. Pas du tout, au contraire, ils restent toujours très, très, très. Au contraire, ils restent très forts, ils sont les plus forts, dans le sens qu'ils dominent, parce qu'on leur a donné, nous les citoyens, on leur a donné le pouvoir à travers la privatisation qu'on a acceptée dans nos lois, dans nos parlements, etc. Donc, Porto Alegre représente cette prise de parole qui est importante. Et vous avez cette prise de parole pour parler, quoi. Pour raconter ce qu'on a, ce dont on rêve. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin, j'espère le terminer bientôt, qui s'appelle « Il faut des rêves pour les réaliser ». Si vous n'avez pas de rêves, vous ne réaliserez jamais des rêves. Donc, il faut avoir des rêves pour les réaliser. Non? Et ici, à Porto Alegre, nous ne sommes pas seulement au niveau des rêves, nous sommes à Porto Alegre aussi dans une ville qui démontre qu'une autre organisation de la ville est possible, qu'une autre démocratie citadine est possible. D'ailleurs, ici, Porto Alegre est fameuse pour l'innovation du budget participatif, c'est-à-dire que le budget de la ville, 1 300 000 d'habitants, 1 000 habitants, ça fait à travers les gens. Les gens participent, et participent au contrôle de l'exécution du budget. Et donc, ils sont ici depuis 10 ans, ils ont transformé la ville. Et alors qu'avant était une ville comme toutes les autres villes brésiliennes, où il y avait la misère partout, où il y avait des enfants dans la rue, où il y avait la corruption, etc. Maintenant, la pauvreté reste toujours, mais la misère a été éliminée. Dans tous les quartiers, ils ont de l'électricité parce que les habitants ont décidé que le budget devait être décidé surtout pour l'électricité, pour l'eau, pour le gaz, pour le logement social, pour les écoles, pour créer des unités de santé en tous les coins. D'ailleurs, vous l'avez vu peut-être en circulant, il y a des centres de santé partout, quoi. Mais c'est les citadins, les gens de Porto Alegre qui ont décidé qu'il faut donner l'avantage à ça. Et vous voyez quelle ville propre. Et vous voyez, la ville qui est propre, et vous n'avez pas peur de vous promener dans la périphérie, dans les banlieues, même pauvres, parce que c'est éclairé, parce qu'il y a les gens, etc. Donc, on montre à Porto Alegre que notre monde est possible, et sont tous ceux qui sont en train d'essayer de le faire, qui se rencontrent à Porto Alegre. Cette énorme signification. Et puis, les gens ici sont pleins d'enthousiasme. Ils croient qu'ils sont en train de participer à quelque chose qui va changer le devenir. C'est formidable, vous ne trouvez pas? De pouvoir se sentir, au lieu dans un état, dans une psychologie morose, où on ne peut rien faire, où il faut accepter que le monde va comme ça, où il faut accepter que chacun soit le meilleur pour survivre, eh bien ici, les gens croient qu'ils sont en train de participer ensemble avec les autres. C'est ça qui est intéressant. Participer ensemble avec les autres en construction d'un monde meilleur. C'est formidable, non? Il ne faut pas rater ça.
C'est tellement...
Mais parce que la plupart des hommes, femmes politiques qui nous gouvernent en ce moment, ils sont plus ou moins, ils baignent dans les principes et les pratiques des politiques du monde dominant. Mais ils ne sont pas venus spontanément parce que justement, ils croient de pouvoir améliorer la mondialisation actuelle. Et d'ailleurs, ils font tous les discours sur l'humanisation, surtout les démocrates chrétiens, font les discours sur l'humanisation de la mondialisation. Et ils continuent à répéter que contre la mondialisation actuelle, on ne peut rien faire, c'est qu'on peut faire simplement l'humaniser. Et ce n'est pas la perspective. Ici, nous disons, nous voulons une autre mondialisation. Et donc, ils ne sont pas venus spontanément. Et puis, deuxième chose, les organisateurs ne les ont pas invités. Les organisateurs ne les ont pas invités parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés. Hein? Et donc, c'est significatif. Et d'ailleurs, en revanche, ils sont à Davos. Mais nous, ici, par volonté, on a décidé de ne plus nous faire par rapport à Davos. Nous, on ne parle plus de Davos. En revanche, il paraît qu'à Davos, il ne faut que parler de Porto Alegre. Ça, c'est gai. Pas mal de membres d'organisations, soit politique, soit sociale, culturelle, qui ne sont pas ici du monde développé, des dominants, eh bien leur base est beaucoup plus favorable à dire notre place à Porto Alegre qu'à Davos. Et ça, c'est déjà également un autre élément qui fait espérer que nous avons mis un mouvement, un processus, et l'événement de Porto Alegre ne fait pas un mouvement. Un mouvement social, un mouvement politique ne se fait pas par des événements. Un mouvement se fait par la construction de réseaux, par la construction de réalités, par la construction de règles, d'institutions, par une mémoire qui alimente ce processus. Ce n'est pas l'événement. L'événement est important parce qu'il faut se rencontrer. Mais c'est que cet événement ici est en train de mettre en chantier, c'est un processus qui n'est pas dit encore qu'elle est en train de devenir un mouvement. Mais c'est un processus nécessaire et indispensable, et je lui souhaite un grand succès, en espérant de pouvoir contribuer aussi un tout petit peu. Moi, quand je parle mouvement, c'est un mouvement social, un mouvement d'histoire. C'est pas un mouvement partitique, un mouvement politique codifié avec un comité directeur, avec le comité international, un comité interne, quoi. Non, pas ça.